On n'est pas allé la dernière fois, on ferait mieux de refaire un petit tour à l'Alma, non ?
Du côté de l'Alma.
Du côté de l'Alma.
Du côté de l'Alma.
En plus, c'est vrai que c'est un beau coin.
Du côté de l'Alma.
C'est la place et de Moarno, et ça c'est la cour.
Une émission de quartier.
Tu veux aller par là ?
Quotidienne et éphémère.
Et il y avait la fête, il y avait même des cracheurs de feu.
Éphémère.
On peut se faire un petit coup de cerveau et bouteilleur.
On y sont des habitants.
Donc on va...
Une ouverture exceptionnelle du 12 rue Trécloître,
du 6 au 11 octobre, sur Trackloot Radio, 90.8.
Trackloot Radio, 90.8. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce deuxième jour de direct de Trackloot Radio sur le 90.8 et au numéro 12 de la rue Trécloître. Vous savez, Trackloot Radio, c'est cette radio éphémère installée exceptionnellement pour un festival ouverture exceptionnel. On est en direct et aujourd'hui, on commence en douceur puisqu'on a la chance d'avoir Jérémy Lamourou avec nous de collectif Regardez Dieu. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Alors d'abord, on va peut-être te présenter ou tu vas te présenter. Qui es-tu et qu'est-ce que c'est que ce collectif Regard des lieux ?
Je fais du cinéma documentaire et le collectif Regard des lieux, c'est un collectif artistique grenoblois qui existe depuis une quinzaine d'années et qui fabrique des cinémas-concerts à partir du réel qu'il y a autour de Grenoble, quoi, principalement dans les montagnes. Donc l'idée, c'est de faire à la fois film et musique en direct dans une forme de concert.
Ok, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez commencé à partir d'hier une résidence dans le théâtre Sainte-Marie d'en bas. Et bon, alors nous, vous l'avez compris, en ce moment, tout ce qui se passe dans le quartier Trécloître, ça devient une obsession. Donc on a voulu savoir ce qui se fabriquait dans cette petite boîte noire. Donc vous avez commencé hier et vous êtes là pour une semaine en résidence, c'est ça ? Pour votre prochaine création qui s'appellera Pays lointain, si oui. Je ne m'abuse.
Oui.
D'abord, peut-être pour repréciser, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une résidence artistique ? Est-ce que vous êtes venu avec vos valises pour passer des vacances ou comment ça se passe ?
En fait, on vient ici boucler la boucle, comme on dit. On a la première résidence de création qu'on a fait avec le Théâtre Sainte-Marie et en fait le Centre international des musiques nomades, c'était en janvier 2024. Donc c'était vraiment la première fois qu'on se retrouvait à quatre. Donc il y a Martin de Bishop à la basse, Mélanie Viro à la harpe et Pascal Tollet au son du réel. C'est lui qui a enregistré les craquements de la montagne qu'on a entendu juste avant. Et moi donc qui suis au film. Et donc on s'est retrouvés en janvier 2024 et maintenant on se retrouve en octobre 2025. Entre temps, il y a eu plein de résidences.
Presque 2 ans plus tard.
Ouais, un an et demi. Ouais.
An et demi.
Ouais, mais c'est un peu près le temps. Et encore, je pense que l'idée de cette création de Pays lointain, elle date de... Ouais, je pense qu'elle a 2 ans, 2 ans et demi. C'est un peu le temps de maturation. Bah, la résidence, le temps de résidence, il est spécifique à chaque temporalité du projet. Je pense que la première fois où on était là, en janvier, on était très... Comment dire ? C'était vraiment le début de la création. On ne savait pas complètement où on allait. Moi, je savais ce que j'avais envie de raconter, mais je ne savais pas trop comment. L'idée, c'était de raconter à la fois l'effondrement de la montagne et la manière dont certaines personnes peuvent rester des repères, en fait, dans cette période de profonde mutation de l'espace montagne. Et je ne savais pas comment le raconter, parce que j'hésitais un peu avec un support en pellicule ou filmé en vidéo. J'étais très... J'avais des réflexions sur la plastique plutôt de la création, c'est-à-dire comment rendre compte de ça. Et donc on avait passé une semaine vraiment en mode essai. Je pense que Mélanie et Martin, ils avaient une expérience assez, ils ne s'étaient pas beaucoup rencontrés pour travailler ensemble. Donc pour eux, c'était une première période de rencontre musicale. Avec Pascal, c'était un peu... On avait déjà travaillé, donc il y avait quelque chose qui existait déjà. Donc on était plutôt en mode, pendant une semaine, d'essai très libre, à la fois sur
des contacts aussi entre vous peut-être.
Ouais, voilà, mais aussi d'essais de parties musicales, de faire de se découvrir, de voir comment chacun travaille. Moi, j'avais amené on avait un projecteur 16 mm, j'avais fait un petit essai en 16 mm, on avait regardé des films, il y avait des tentatives qui sont à la fois libre et qui n'engage pas au-delà, parce que l'idée c'est quand même d'essayer des choses. Et
il n'y a pas d'obligation de résultat à ce moment-là, au tout début de la création. Vous êtes là pour essayer des choses et vous rencontrer sur le plateau, dans le travail.
Ouais, voilà, ouais. Après, disons qu'on s'auto-fabrique des sortes de repères qui nous semble important justement pour pouvoir avancer et pas être que dans une démarche de faire des trucs comme ça. Là maintenant on est plus dans un temps de résidence de création, parce que la présentation publique donc c'est vendredi, ce qui fait que le film il est fini. La création elle est vraiment écrite maintenant. Y a encore quelques petites choses qui bougent, mais on est plus à la phase où on fait les derniers arrangements, les dernières compositions pour voir comment elles peuvent rentrer à tel moment du spectacle. Mais la chose, elle est plutôt en mode de répétition.
Là, c'est une résidence de peaufinage.
Ouais, voilà, ouais.
Et entre-temps, il y a eu d'autres moments de travail. Je crois que vous travaillez aussi pas mal en immersion. On a entendu des sons. Il y a beaucoup de choses qui sont aussi dans le réel, sur le terrain.
Ouais, il y a eu 6 semaines en tout. Non, peut-être pas 6 semaines, je ne sais plus exactement. Mais on a fait une résidence à Prapoutel, une résidence à l'Espace Aragon à Villarbonneau, une résidence à Saint-Jean-Royan, une résidence à Saint-Martin-d'Hères, une résidence à Passy en Haute-Savoie. Ça, c'est les résidences à 4. Mais on n'est pas toujours là tous, parce qu'il y a des fois, il n'y a pas besoin. Et après, il y a eu beaucoup de temps où Mélanie et Martin, les deux musiciens instrumentistes, ont travaillé de leur côté. Et où Pascal étant le preneur de son et moi à la caméra, on s'est retrouvés là tous les deux sur le terrain, ouais, en gros, à filmer, à saisir un peu le réel de ce qui se passait sous les yeux. Et après, moi, j'ai par ailleurs monté le film tout seul pour arriver à la forme.
Des temps collectifs et des temps un peu à deux ou seul de création.
Ouais, ouais.
Alors peut-être avant de rentrer un peu plus dans le détail de cette création qu'on va pouvoir voir vendredi soir, on va entendre un peu de ce que vous avez capturé comme son pour se rendre compte un peu de l'ambiance que vous êtes en train de créer.
Ces endroits ne sont que des pierres. Le soleil ne les fond pas. Le soleil ne les fond pas et non plus la lune. Ces endroits ne sont que des pierres. Ces endroits ne sont que des pierres. Le soleil ne les fond pas. Le soleil ne les fond pas, et non plus la lune. Ces endroits ne sont que des pierres. Ces endroits ne sont que des pierres. Ces endroits ne sont que des pierres. Le soleil ne les fond pas. Le soleil ne les fond pas. Ces endroits ne sont que des pierres. Le soleil ne les fond pas. Le soleil ne les fond pas et non plus la lune.
On est toujours en direct de Tracloot Radio sur le 90.8 et toujours avec Jérémy Lamoureux du collectif Regardez Lieux, qui sont depuis hier soir en résidence au théâtre Sainte-Marie d'en bas pour une semaine de dernier peaufinage de leur création du prochain spectacle Pays Lointain. Alors Jérémy, tu nous as un petit peu expliqué ce que c'était que le travail de résidence. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément du spectacle Pays Lointain, notamment aussi, c'est un processus que vous utilisez souvent, cette forme de concert cinématographique ou de ciné-concert aussi, on voit aussi les deux, c'est la même chose les deux
Ouais, c'est la même chose, mais on dit pas qu'on fait des ciné-concerts parce qu'on a dans le langage commun, le ciné-concert, c'est on prend un film qui préexiste et on met de la musique dessus. Et finalement, notre démarche est autre, c'est que le film est fabriqué pour être joué sur scène. Donc le film est pensé en tant que
en fait,
il intègre en fait la performance avec les musiciens et ce qui fait qu'il y a des moments où il n'est pas autonome, le film. Le film ne peut être joué et montré que dans ce cadre-là avec deux musiciens
ça,
sur
c'est
scène.
C'est une nuance importante par rapport aux ciné-concerts.
Ouais, effectivement. Alors que les ciné-concerts, c'est des films que tu peux voir seul. Donc nous, on dit plutôt qu'on fait des cinéma-concerts ou concerts cinématographiques, ça dépend. Là je pense qu'il y a une part du concert qui est plus importante qu'avant encore parce que ça a été un peu notre volonté de partir là-dessus. Voilà pour ce qui est de la...
Et alors justement, comment est-ce que ça se crée simultanéité entre le cinéma et le concert? Qu'est-ce qui est créé quand? Qu'est-ce qui se crée par rapport à qui? Enfin, est-ce que c'est le film qui vient après le son? Est-ce que vous créez ensemble? Comment est-ce que ça se passe dans la création?
Ce qui engage le travail de création, c'est une question d'intention. Pour moi, je trouve que c'est que partir du principe qu'il y a une réalité qui est dans la montagne, qu'on essaye de saisir, qu'on essaye de partager avec Martin, Mélanie, Pascal et moi, en se disant de quoi on est témoin, en fait. Moi, quand je fais des images, je leur montre, on discute de ça. Et quelque part, la musique vient à un moment donné pour amener en fait, le spectateur à l'endroit où on veut l'amener. Ce qui fait qu'il n'y a pas un schéma très clair, dans le sens où ils ont composé certains morceaux. Ils m'ont fait écouter. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je l'ai mis sur des images. J'ai fait des images en pensant que ça pourrait aller sur tel type de musique. On a composé des musiques à partir des enregistrements sonores.
Donc il y a un va-et-vient entre l'image et
permanent,
le son.
Permanent. Mais avec toujours quand même comme sorte de canevas, la perception qu'on a de la mutation de la montagne, donc de son effondrement à la fois physique, de son effondrement social, de son effondrement culturel, et de la manière dont certains personnages, en l'occurrence là il est figuré par une bergère, dont certains personnages tiennent encore la montagne alors que autour d'eux tout se casse la gueule, quoi, littéralement.
Alors c'est la deuxième fois que tu parles de personnes repères.
Ouais.
C'est qui ces personnes repères? Qu'est-ce qu'elles représentent et concrètement à qui tu penses, à quoi tu penses?
Clairement, on n'a pas un propos militant, dans le sens où moi, je traverse la montagne en allant dans des stations de ski où les gens se saoulent la face à 3h de l'après-midi en haut des pistes, comme aller voir une bergère qui est sous la tempête avec ses moutons en plein été. Ce qui fait que je suis tout le temps dans un truc de grand écart. Et de traverser ces réels-là, qui sont des mondes qui sont à la fois très loin les uns des autres et en même temps dans une proximité qui est radicale. Enfin, la bergère et la station de ski, il y a 10 km qui les séparent. Et pourtant, jamais ils ne communiquent ensemble. Moi, ce que j'appelle repère, c'est le fait de... Mais je pense que c'est plus globalement, c'est une sorte de rapport avec la vie. C'est la manière dont on habite les lieux où on est. Et je pense que notre société et la montagne en l'occurrence est confrontée à un phénomène où les gens viennent consommer un espace et ne l'habitent pas. Et ils consomment un espace pour ce que ça leur procure en termes de sensations. Et point, ça s'arrête là. Et je crois que pour moi, la figure, en tout cas de la bergère dans Pays Lointain, c'est une figure de quelqu'un qui habite un espace, qui vit avec cet espace, et donc qui vit avec un espace qui est vivant, avec des pierres qui tombent, avec des moutons qui broutent, avec des fleurs qui poussent, avec la pluie, avec ces éléments-là, quand d'autres sont dans des bulles qui sont transportables d'un espace à un autre, et qu'on peut faire la fête à Oslo, aux Deux-Alpes, à Grenoble. Enfin, c'est exactement la même ambiance, c'est juste le cadre autour qui change, mais finalement, cet espace-là, on est totalement c'est un espace qui est imperméable, on n'est pas touché par cet espace. Et l'idée, moi, c'est de raconter ça dans Pays Lointain. C'est à la fois le fait que c'est un pays lointain pour nous qui sommes en ville, mais que c'est un pays lointain pour aussi les gens qui vivent une réalité ou l'autre et que ces espaces ne communiquent pas. Et l'enjeu pour moi, c'était de reconstruire une sorte de montagne qui est une montagne plus symbolique qu'autre chose, parce que dans Pays Lointain, on n'assigne pas à tel ou tel endroit un nom ou une localisation géographique.
Oui, c'est la montagne de manière générique, oui, presque. Voilà. Et en même temps, tu parles quand même de sortir de l'image de la montagne, de la, notamment de la carte postale, un peu d'un imaginaire peut-être un peu embelli ou rêvé, et pour essayer d'aborder la montagne de manière plus entière et plus sensorielle. Donc c'est quand même quelque chose de plus incarné qu'une montagne générique, ce que vous proposez de traverser dans le spectacle.
Oui, oui, oui. Enfin, moi, c'est sûr que l'image carte postale, pour moi, n'a aucun intérêt. Pour moi, c'est des supports de communication. Mais l'enjeu, c'est à la fois, quand je dis qu'on n'a pas de discours militant, c'est que la façon dont a été traitée la nuit dans la montagne, c'est via la fête, c'est via les machines, c'est via un monde qui est, pour certains, un rêve, pour d'autres, un cauchemar. Mais moi, je ne veux pas assigner, en fait, enfin, assommer les gens avec mon point de vue. L'idée, c'est de montrer mon point de vue, mais de donner au spectateur la possibilité de se repérer là-dedans et de construire son propre chemin. Moi, je n'ai pas de solution toute faite. Je constate juste qu'il y a un monde qui continue d'être dans l'exploitation de l'espace montagne à outrance et que je ne suis pas convaincu que cette manière de faire, elle soit bonne. Et en même temps, je n'ai pas envie de montrer les gens sous un jour un peu laid. Donc, il faut trouver à chaque fois des manières de faire, parce que finalement, filmer la bergère, c'était facile, parce que c'est plutôt agréable de filmer quelqu'un dans un espace qui est beau.
Ça
qui
peut
est
aussi être une carte postale.
Complètement. Et ça, c'est clair. Mais donc, l'idée, c'était aussi de montrer que les moutons, il y a aussi un côté d'exploitation. Enfin, c'est l'exploitation du monde animal. Il y a un troupeau. Donc, on a filmé la transhumance avec les camions, avec les vagues de moutons, l'espèce de masse que peut représenter un troupeau. Et en une sorte de parallèle, il y a une autre masse, un autre troupeau qui se retrouve. Et l'idée, c'était parce que il y a plein de moments où moi je suis confronté à des situations que je trouve moches, mais je sais pas, enfin, j'ai pas envie de montrer des images moches ou de montrer le moche. Donc faut arriver à circuler pour trouver un espace où je dirais pas qu'il y a de la beauté, mais en tout cas il y a une forme de poésie qui peut se dégager, y compris dans des choses qui sont un peu délirantes, quoi. Enfin,
sans esthétiser les choses qu'on n'a pas forcément envie de...
Ouais, donc c'est toujours un peu sur la corde raide et il faut trouver une manière de traiter cette réalité pour à la fois transmettre son point de vue et en même temps ne pas être dans une assignation et ne pas dévaloriser tout ce qui ne trouve pas grâce à nos yeux, quoi.
Et le fait de donner ça au spectateur, au public, à son propre jugement, est-ce que c'est facilité par exemple par le fait que vous travaillez sur les sens au pluriel, c'est-à-dire que chacun du coup est amené à ressentir les choses à sa manière. Vous travaillez sur la vue, bien sûr, avec le travail du cinéma et le travail scénique, le son, je sais pas, peut-être aussi les sensations par ailleurs que peuvent donner un film ou un spectacle en général. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de comment est-ce que vous travaillez cet aspect multisensoriel dans le spectacle?
Et en fait, le pays lointain, il n'y a pas de parole. Il y a quelques mots qui sont dits, la bergère qui peut appeler son chien ou les danseurs, on peut capter un ou deux mots, mais c'est pris dans le paysage sonore, qui fait que l'enjeu de travailler sans parole, donc sans discours, c'est d'arriver à fabriquer un point de vue qui passe uniquement par la sensation. Donc la sensation, c'est amener les gens à ressentir quelque chose, amener les gens à ressentir l'effondrement, parce que mine de rien, l'effondrement, moi j'ai découvert dans une résidence pendant la création, il se trouvait qu'il pleuvait, je voulais aller filmer dehors, je pouvais pas, et donc je me suis retrouvé à faire de l'ordinateur alors que j'étais en pleine à la montagne, et j'ai découvert qu'il y avait des tonnes et des tonnes de vidéos filmées par les gens de la montagne qui s'effondre, et on les voit passer de temps à autre ces vidéos, mais elles sont dans le flux de Insta ou de Facebook, et puis elles sont reprises par un petit journal, et on la voit, on fait oh là 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 là, et puis ça s'arrête, quoi. Et puis en fait, alors que là, concrètement parlant, ce qu'on est en train de nous montrer, c'est qu'il y a des pierres qui sont grosses comme des bus, qui s'effondrent de la montagne, qui tombent sur la route, qui tombent sur des maisons. Enfin, c'est quelque chose dont il faut prendre la mesure. Je pense qu'on ne prend pas la mesure de ce que ça raconte, et ça se multiplie. Donc l'idée, c'est comment arriver à faire ressentir ça. Donc moi, j'ai pris des vidéos que j'ai trouvées sur Internet, on les a resonorisées avec Pascal, avec les sons des craquements. Et l'idée, c'est de faire prendre conscience aux gens de cet effondrement. Mais je ne veux pas non plus jouer la carte du spectaculaire et tout le spectacle être ponctué de ça et être dans un truc éco-anxiogène, quoi. Donc l'enjeu, c'est à la fois de faire ressentir ça, mais il faut être suffisamment subtil, et j'espère qu'on le sera, on nous le dira vendredi, pour qu'on puisse aussi basculer sur une autre réalité, qui est la réalité à la fois des gens qui sont dans une forme d'insouciance. Les gens qui font la fête et qui continuent de boire du champagne à 2500 mètres d'altitude et qui sont arrivés là en avion, pour moi, ils sont dans une forme d'insouciance. Donc, j'ai pas forcément envie de les culpabiliser dans ce qu'ils fabriquent de l'espace montagne. Et en même temps, je trouve que ça doit questionner. Donc, comment arriver à rendre compte de ça ? Bah, on est rentré dans les boîtes avec les gens qui sont en tenue de ski et qui boivent jusqu'à plus d'heures. Et donc, il y a un truc de la danse qui nous ramène tous à quelque chose qu'on a tous vécu, qui est de danser, et c'est beau. Et en même temps, il y a un paradoxe, quoi. Est-ce qu'il faut danser ? Est-ce qu'il faut continuer à faire la fête quand tout se pète la gueule autour de soi, quoi ? Donc voilà, on a essayé de circuler comme ça.
C'est aussi l'ivresse qui fait oublier, qui balaye ce qu'on n'a pas envie de voir. C'est une vraie question. Enfin, je trouve ça assez beau de le présenter comme ça, parce que justement, c'est aussi danser et s'enivrer pour fermer les yeux, quoi, sur des choses sur lesquelles on n'a pas prise. Parce qu'effectivement, quand la montagne... ces boules, on peut pas faire grand chose en tant qu'humain.
Ouais,
on peut se sentir en tout cas dépossédé, quoi.
Oui, mais c'est pour ça que je voulais traiter cette ivresse de cette manière, à la fois belle, parce qu'il y a quelque chose de la fête qui peut être très beau, et en même temps complètement décalé, enfin hors sol. Et donc, pour revenir à cette histoire de la figure de la bergère, pour moi, il n'y a que la bergère dans cette espèce de monde qui est en ébullition, qui avance tout droit et qui mène son troupeau d'un endroit à un autre pour le faire manger, qui est au contact des éléments et qui, justement, je trouve, nous ramène à un enjeu qui est fondamental aujourd'hui. C'est, en fait, c'est quel rapport on veut avoir avec le monde dans lequel on vit. Est-ce qu'on veut avoir un rapport hors sol et où on continue de faire comme si de rien n'était, et on peut éventuellement être ivre n'importe quand parce que le monde le permet et puis ça nous permet d'oublier la triste réalité dans laquelle on est, ou est-ce qu'on veut à un moment donné se poser la question de qu'est-ce qu'on fait à la place de ça, quoi. Enfin, quelle bifurcation on prend, quoi.
Et en même temps, la bergère, elle est aussi dans une forme d'accroche à un monde qui paraît lointain aussi. Une économie qui est ancienne, basée sur une montagne qui allait mieux quand même, ou en tout cas qui était moins torturé, peut-être. On peut aussi se poser la question.
Ouais, après, moi, j'ai pas... Oui, tout à fait. Mais je j'ai pas... Enfin, j'ai pas tenté de... Moi, je suis pas sûr qu'elle soit ramenée au passé. Parce que pour moi, justement, il y a de plus en plus de gens aussi qui font ce choix d'une sorte de retour à... Ça s'est appelé retour à la terre à un moment donné, je sais pas si c'est la bonne expression, mais en tout cas qui font le choix de soit de bifurquer, soit carrément qui ont jamais enfin qui sont dans ce chemin là qui est un chemin en lien avec les éléments, quoi. Et après, c'est à tout à chacun de se retrouver là dedans moi, je demande pas aux gens d'aller faire d'aller faire du pâturage à 2000 mètres d'altitude pendant 6 mois, hein, c'est pas ça. Mais
en tout cas des questions qui vont résonner ici à Grenoble, puisqu'on est entouré quand même de 3 massifs qui chacun se posent des questions de leur devenir économique, social, etc. Donc ça va forcément résonner pour nous vendredi, c'est ça ?
Oui,
vous présentez
tout à fait.
À quelle heure ?
C'est à 20h.
À 20h au Théâtre Sainte-Marie d'en bas.
Oui.
Et ça veut dire que c'est votre première ?
C'est la première, ouais. Ouais.
La classe. La chance. Et est-ce que tu as déjà un peu des idées du devenir du spectacle ? Est-ce qu'il y a des dates qui sont prévues ?
Ouais, on joue le 17 octobre à Prapoutel, au Ciné 7, dans le cadre de L'Esprit des Lieux, qui est un festival porté par Scène Oblique, qui justement, enfin, c'est pas un festival, c'est une des rencontres où justement, ils prennent le parti de faire se rencontrer des gens, discuter, voir, partager autour du devenir des stations de ski, de devenir de la montagne plus globalement. Et là, justement, il y a un peu le je ne sais pas si c'est un thème, mais en tout cas une question qui traverse ce temps qui est sur l'avenir de la neige. Qu'est-ce qu'on fait avec la neige qui disparaît pas ? Après, on va jouer à René Proby, l'espace culturel René Proby à Saint-Martin-d'Hère en novembre, le 20. Et puis le 21, on est au Musée de l'eau à Pont-en-Royan. Après, on joue à l'espace Aragon en février. Et puis voilà, le spectacle, l'idée, c'est qu'il tourne et puis qu'il soit vu et puis qu'il participe quelque part un peu au débat public sur qu'est-ce que la montagne. Après, nos outils, nous, ce n'est pas des outils discursifs, c'est des outils qui sont plutôt réflexifs sur la manière dont on peut ressentir la montagne et se poser des questions.
Et ouvrir les discussions quand même après.
Ouais, ah oui, complètement. Moi, mon enjeu, c'est que les gens puissent discuter et que les gens qui sont justement qui peuvent avoir des avis très tranchés, parce que ça fait quand même bien 15 ans que je parcours la montagne autour de Grenoble et qu'on est face à des discours, mais qui correspondent à la situation politique générale, hein, avec des discours très radicaux, très tranchés, où les gens ne s'écoutent plus vraiment et ne se parle plus, et moi je sais très bien de quel côté je me trouve politiquement, mais je suis toujours à l'écoute de l'autre, et je pense qu'on a besoin de se reparler et de reconstruire du sens commun. Et notre idée, c'est à travers justement un cinéma de sensations, à travers la musique, de raconter quelque chose et que les gens puissent s'en emparer, quoi. Et après, ils font ce qu'ils ont à en faire et ils en parlent de la manière dont ils ont envie d'en parler, quoi.
Bon, donc on compte sur vous. Ouais. Sur le collectif Regard des lieux pour apporter un peu de nuance à tout ça et à relancer le débat. Donc on se donne rendez-vous vendredi à 20h
tout
au
à fait.
Théâtre Sainte-Marie d'en bas.
Ouais.
Merci beaucoup Jérémy d'avoir passé la matinée, un petit bout de matinée avec nous.
Merci à vous.
On va continuer en direct sur Trackloot Radio avec de la musique. Vous êtes toujours sur le 90.8. Et Jérémy, tu avais envie d'ajouter quelque chose?
Non, mais juste que là, on va écouter un petit son justement de Pascal Tollé,
ouais,
qui donc se met dans le paysage et qui nous fait écouter le paysage. Et il se trouve que, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, parce qu'on est quand même à la radio, mais je trouve que trop souvent, l'image en fait enferme et qu'il n'y a pas assez d'espace pour écouter les choses. Et que voilà, je peux juste dire aux gens, peut-être là, sauf si vous êtes en voiture, mais vous pouvez fermer les yeux et écouter ce paysage sonore qui a été pris dans le vallon de Valsenestre, dans les Écrins, en septembre 2024.
Merci pour ces précisions. Voilà. Profitons d'être à la radio pour écouter le paysage alors.
Radio.
Du côté de l'Alma, une émission de quartier quotidienne et éphémère.
Sur 90.8 FM.
Ah, encore un figuier. Il y a des figues là.